Pour le cours, il y a un syllabus que vous pouvez trouver à l'accueil, au troisième étage, qui date de 2002, avec des annexes qui ont été ajoutées en raison d'une feuille par séance, je crois, en 2008. C'est un cours qui se renouvelle pratiquement constamment, étant donné que la recherche n'est jamais terminée. Nous allons d'ailleurs en parler tout de suite. J'ai donné un programme indicatif ici que nous suivrons plus ou moins, suivant les possibilités. Si vous avez des questions, généralement, ce sera peut-être difficile de faire une séance de questions après le cours. On n'a qu'une heure. Et vous pouvez toujours mettre un billet dans mon casier avec vos questions. Les questions sont extrêmement importantes et j'ai remarqué que souvent nous écoutons un cours passivement sans essayer de faire travailler en même temps notre intelligence et surtout notre imagination. C'est ce qu'on apprend au petit juif dès qu'il a atteint l'âge de 3 ans, c'est qu'il faut poser des questions et qu'on n'a jamais fini de découvrir la réalité. Et c'est cette étude-là, c'est-à-dire une question posée de plus en plus loin, qui fait que, finalement, on devient intelligent. On ne se contente pas d'une manière de percevoir les choses, mais on apprend diverses manières et on essaye de les confronter et de voir que souvent, la réalité est tout à fait paradoxale et que l'on peut dire une chose et son contraire, et qu'elles ne sont pas nécessairement contradictoires. Une différence entre la contrariété et la contradiction. Nous avons donc à parler pendant ce semestre, le lundi matin de 8h30 à 9h30 pour s'entraîner un peu, les méninges. Nous allons à parler de ce qu'on appelle les livres historiques. Ça, c'est une nomenclature que nous utilisons en Occident et notamment dans l'Église. Mais les Juifs ne parlent pas de livres historiques. Pour la bonne raison que le terme de histoire est susceptible de beaucoup d'interprétations différentes. Et donc, qu'est-ce que l'histoire ? Nous allons essayer d'en dire quelque chose tout de suite. Mais la tradition juive, comme d'ailleurs les Bibles en hébreu, parle de Neviim Harishonim, c'est-à-dire les prophètes les premiers prophètes ou les prophètes antérieurs. Et donc, ce sont des livres qui sont définis dans la tradition juive, qui sont définis comme des livres prophétiques, pas des livres historiques. Et donc cela nous dit quelque chose, une vision de la réalité telle qu'elle s'est passée et qu'elle se passe et qu'elle se passera. Pour nous, souvent, l'histoire, c'est la tradition de ce qui s'est passé autrefois. Pour le juif, l'histoire, c'est l'actualité grosse de ce qui est passé et ouverte ce qui se passera. Donc c'est un chemin en construction, en quelque sorte. Un cheminement qui n'est jamais terminé. Et la prophétie, c'est justement cela. C'est dire la réalité du présent à partir du passé, donc il y a toujours des retours au passé, mais pour dire comment les choses sont en train de se passer, vers où elles vont. Et c'est découvrir, la prophétie découvre une finalité dans le présent en faisant état du passé. Donc c'est une notion d'histoire qu'il nous faut essayer de découvrir et de digérer. En fait, il y a, disons, en grosso modo, c'est un peu caricatural, mais enfin, il faut parler de façon assez simple, il y a trois manières d'envisager l'histoire dans la tradition. Il y a d'abord celle que nous utilisons aujourd'hui, qui est plutôt la mentalité positiviste. Donc il faut découvrir quels sont les marqueurs de la réalité humaine, qui sont généralement, comme paramètre, nous avons le temps et l'espace. Bon. Et nous essayons de déterminer un présent dans ce temps et dans cet espace. Et donc, c'est cette manière d'écrire l'histoire qui s'appelle l'histoire « Que s'est-il passé ?» C'est la question qu'on se pose, la question qu'on se pose aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, en allemand, on dit « Geschichte ». Was geschieht, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Geschiedenis en irlandais, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une référence à ce qui se passe, ou ce qui s'est passé. Comment peut-on redécouvrir un certain nombre de réalités qui se sont passées et qu'on ne peut pas répéter? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une mentalité, disons, positiviste. Dite objective, c'est-à-dire que l'on détermine par rapport à certains paramètres, dits objectifs, déterminés dans le temps et l'espace. Mais la manière de voir du grec, d'où vient justement ce mot histoire, historio, c'est raconter. Donc on parle de récit, on raconte. Historia, c'est ce qui se raconte. Qu'est-ce qui se raconte de ce qui s'est passé? Donc un récit qui fait référence à une mémoire. On raconte les choses comme on les a perçues et comme elles sont restées dans la mémoire. Mais on sait bien que la mémoire est faite de strates, et que la mémoire se relie toujours. Et quand je raconte quelque chose aujourd'hui sur ma propre vie, et si je prends quelque chose que j'ai raconté il y a 30 ans sur ma propre vie, ce ne sera probablement pas exactement la même chose. Il y aura des éléments différents, pour la bonne raison que j'ai évolué et que le monde dans lequel je vis a évolué. Donc c'est une histoire qui prend en compte le récit, qui passe par la réalité d'une mémoire personnelle. Donc ce n'est plus un positivisme uniquement ou une objectivité, c'est une réalité déjà plus subjective. Cette réalité plus subjective est en progrès sur l'autre, parce qu'elle ne dit pas seulement l'objet, sujet d'information, mais elle dit comment cet objet a travaillé déjà des mémoires, mémoire personnelle, mémoire collective. Et donc il y a déjà dans le récit quelque chose de plus que ce qui s'est exactement passé. Troisième mentalité, qui est plutôt la mentalité sémitique, histoire, ici on parle donc de historio, raconté, ici on parle d'un mot qui signifie toledot, qui signifie engendrement. Ah, histoire égale engendrement. Si je prends l'histoire de de Belgique, l'histoire de France, ce sont les engendrements de la Belgique ou de la France. Comment ça s'est passé, petit à petit. Et donc, cet engendrement, c'est une réalité, bah oui, on part d'une histoire, au sens positiviste du terme, on passe par un récit, il faut bien raconter, mais ces récits ont une destination, c'est de dialoguer, dialoguer avec le lecteur, l'auditeur. Donc c'est une réalité, si vous voulez, objectivo-subjective, parce qu'elle est destinée à faire vivre un engendrement, c'est une mise en vie, mettre au monde. Et donc, lorsque vous lisez le texte, vous le faites vivre et vous en vivez vous-même. Ça, c'est la mentalité hébraïque et juive qui nous est donnée, qui est transmise par Jésus, qui nous a transmis l'histoire mémorisée en récit pour que nous en vivions. Et donc ça, c'est encore une perception qui est plus riche que les deux autres. Mais nous nous bornons la plupart du temps, nous, à la première, celle qui est plus proche de nous et qui est positiviste. Comme si nous pouvions survoler la réalité et comme si nous devions en recevoir uniquement des réalités, des informations. Ça, ce sont des réalia. Pour autant que nous puissions découvrir aujourd'hui des réalités qui ne sont pas comme la science, qui n'est pas humaine, la science du vivant ou des réalités humaines, des réalités physiques, ou chimiques éventuellement, des événements que l'on peut répéter. Un événement historique ne se répète pas, même s'il y a des manières de revivre la même réalité. Or, c'est précisément ce que la Bible fait. La Bible écrit l'histoire. Et l'écriture est encore autre chose. L'écriture est faite pour transmettre, et transmettre à d'autres personnes, transmettre aux descendants précisément, qui n'ont pas vécu la chose. Mais on ne leur transmet pas seulement des objets, des récits, on leur transmet une expérience, et une expérience de vie. Et c'est dans ce sens-là que la Bible est une histoire. Mais il faut lire la Bible comme une histoire écrite, donc comme un livre. Or, ce livre de la Bible est composé à des époques différentes. Et pourtant, tout est présent dans ce livre. Et il ne faut donc pas s'étonner que ce livre se répète constamment. Il se répète pour dire quoi ? Pour dire qu'une tradition est en route. Et une tradition qui engendre, pour dire qu'une expérience est en train d'être vécue, que cette expérience, c'est une présence de Dieu au peuple et du peuple à Dieu, et que cette expérience se donne de manière multiple et dynamique. Une manière multiple et dynamique. Donc c'est une expérience qui s'enrichit sans cesse. Et c'est pourquoi la tradition, ou l'écriture dans la tradition, fait vivre cette écriture. Elle lui donne une chair humaine, qui est aujourd'hui la nôtre. Et donc on n'aura jamais fini de découvrir non pas ce qui s'est exactement passé, mais comment les autres ont écrit, ont découvert, ont écrit et ont vécu de ce qui s'est, dans la mesure du possible, exactement passé. Pas exactement, véritablement passé. Et nous avons donc une distinction à faire entre l'exactitude et la vérité. Je pose parfois la question à un jeune couple qui demande la célébration du mariage, et je leur demande: quand est-ce que vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Parfois ils tombent d'accord, parfois non. Mais c'est vrai, hein, ils se sont rencontrés une première fois. C'est vrai, mais c'est peut-être pas exact. La mémoire n'est peut-être pas exacte, c'est-à-dire que la date ne peut être pas plus dans leur mémoire. Mais peu importe, la réalité c'est qu'ils se sont rencontrés, la preuve c'est qu'ils sont là, pour demander la célébration du mariage. Donc il faut essayer de demander à la Bible ce qu'elle peut nous donner et ce qu'elle veut nous donner. Et elle veut nous donner une réalité prophétique qui, à partir de ce qui s'est passé, il y a un ancrage dans l'histoire qui est passé par des mémoires qui se sont succédées et qui faisaient attention non pas aux paramètres, mais qui faisaient attention à l'expérience elle-même. Cette expérience était l'essentiel. Les paramètres, c'était la manière dont la réalité vivait dans un temps des hommes, un temps qui est apparence, convention. Mais pour dire une réalité qui dépasse l'apparence et la convention, qui est la vérité de ce que l'Écriture va appeler l'alliance de Dieu avec les hommes. Il y a beaucoup de livres scientifiques qui posent la question, mais de plus en plus, ces livres scientifiques sont mis à la disposition de Monsieur Tout-le-Monde dans des livres que l'on appelle d'ouverture, de mise à la disposition, de vulgarisation. Bon. Si vous lisez trois parmi les livres récents, il y en a beaucoup de livres récents, mais qui ont été écrits et qui se veulent scientifiques, mais de vulgarisation solide, vous avez le livre, je les cite, ils sont tous dans la bibliographie, Dever, c'est américain, aux origines d'Israël, quand la Bible dit vrai. Il y a plus de 50 ans, un livre a été écrit en allemand, Und die Bibel hat doch recht, la Bible avait raison, qui a été traduit en français, la Bible arrachée au sable. Et ici, nous entrons dans une autre distinction intéressante, la Bible arrachée au sable. Donc, munis de la Bible, un certain nombre d'hommes de science se sont mis à l'archéologie. La science des origines, la science des commencements, archée. On s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible a raison? Ah oui, mais à raison, quelle raison? Quelle rationalité? Mais la raison de ce qui s'est exactement passé. Et on a essayé de prouver que la Bible avait raison, de différentes manières. Et il faut lire le livre de Werner Keller, justement, que la Bible arrachée au sable, pour voir comment on veut essayer de donner raison à la Bible en partant de l'archéologie, de ce qu'on a découvert dans les vestiges. Et de fait, hein, on a fouillé et refouillé, et on fouille encore dans tout l'État d'Israël et les environs, pour voir quels sont les vestiges de ce passé. Et on s'est de plus en plus rendu compte que les choses se sont passées très différemment, en tout cas sur le terrain, de ce que la Bible raconte. Et donc il y a une différence d'interprétation entre les archéologues et les biblistes. Je vais mettre archéologues et biblistes. En effet, les archéologues s'intéressent aux vestiges. Est-ce qu'on a des vestiges des patriarches? Est-ce qu'on a des vestiges de un esclavage du peuple hébreu en Égypte? Est-ce qu'on a des vestiges de l'installation en terre promise? Ah, promise, tiens. Qu'est-ce qui a promis quand? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que la terre a été promise? Qu'est-ce que ça veut dire? Promettre une terre, pouf, chose étrange. Est-ce que il y a eu une véritable monarchie en Israël? Mais qu'est-ce que c'était qu'Israël? C'était un grand territoire? Comment l'imaginons-nous? Que pouvait être Jérusalem? Que pouvait être Samarie à l'époque de Salomon? Est-ce que Salomon a existé? Est-ce que David a existé? Est-ce que Moïse a existé? Est-ce qu'Abraham a existé? Et tout cela est mis en question. Il y a un petit film qui est apparu il y a quelques années, 5 ou 6 ans au moins, et fait par un Américain qui parlait arabe et qui s'est posé la question de savoir, il faut que j'en aie le cœur net. Est-ce qu'Abraham a existé? Et il a été faire des enquêtes, notamment à Hébron, en Terre Sainte. Il a interrogé des Arabes autour de lui, qui se disaient, ben oui, Abraham, là nous avons la tombe d'Abraham. Donc si on a la tombe d'Abraham, c'est qu'il a existé quand même. Hein? Bon. Il a interrogé des Juifs aussi. Et je lui ai dit, oui, mais il faut regarder le texte, il faut voir ce que le texte veut dire. Mais c'est vrai, il y a une tombe d'Abraham. Elle est justement en partage avec les Arabes d'Hébron. Et puis il a été en Occident, il a été en Amérique, et il a interrogé partout des professeurs d'université. La plupart des professeurs d'université lui disaient, ça dépend ce que vous mettez sous Abraham. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'Abraham que vous cherchez? Il y a plusieurs images d'Abraham. D'ailleurs, dans la Bible, si vous lisez bien dans la Bible, vous verrez qu'il y a des images différentes, à tel point que il y a peut-être plusieurs Abraham. Finalement, on l'envoie chez un vieux sage juif et lui pose la question tout de go, comme cela. Est-ce qu'Abraham a existé? Ben oui, lui dit l'autre, c'est moi. Ah, intéressant ça. Abraham, c'est moi. Abraham, c'est celui qui me dit mon devenir. Voilà. Nous sommes dans l'engendrement. Mais cette histoire-là, elle, je regrette, mais elle n'est pas écrite dans les pierres. Les pierres ne parlent pas de cela. L'archéologie ne dit pas des choses qui sont conformes à ce que dit la Bible. Et justement, le père Jean-Louis K, hein, qui enseigne à l'Institut biblique à Rome, a une belle comparaison. Il dit, je vais chez un marchand de vin et je lui demande une bonne bière, une Orval, une Cronenbourg. Le marchand le regarde, mais je ne vends pas de la bière, mais j'ai de l'excellent vin. Il dit, ben c'est un peu comme ça. Vous demandez souvent à la Bible ce qui s'est exactement passé. Et la Bible nous dit, je ne vends pas ça. Mais j'ai autre chose qui est excellent. Mais pas ce que vous désirez. Alors, ou bien nous mesurons ce que nous voulons à nous, ou bien nous nous mesurons à ce que la Bible peut nous donner. Le marchand se mesure au client, ou le client ce que le marchand a. Et voilà la véritable question. Et donc vous avez, quand vous lisez la Bible, une histoire, et évidemment comme nous sommes du XXe siècle, des matérialistes, des individualistes, nous lisons l'histoire à partir de nous. Et nous mettons dans les mots ce que nous avons dans la tête, ou ce que notre dictionnaire porte, le sens d'un mot tel qu'il est aujourd'hui. Mais nous avons à faire un petit travail. Est-ce que c'était bien de la même histoire qu'il s'agissait? Oui et non. Il s'agit d'une histoire qui s'est déroulée dans des paramètres de temps et d'espace, bien entendu, dont nous avons quelques vestiges tout à fait d'accord, mais qu'était la vie de ces gens-là et comment cette vie va-t-elle se dire dans l'objectivité d'un texte? Nous sommes passés de l'archéologue au bibliste. Vous avez donc aux origines d'Israël, on vous explique tout cela concrètement, sur place, avec des archéologues et des biblistes. Vous avez un livre qui a fait du bruit il y a quelques années, La Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie. Ah ! On vous dit qu'Abraham n'a pas existé, ni Moïse, peut-être bien David, peut-être bien David et Salomon. Mais à partir du 7e siècle, on peut parler déjà d'histoire. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire à partir de Josias. Est-ce qu'il y a eu 12 tribus au désert? Ben évidemment non. À l'époque de David, peut-être bien. Peut-être. En tout cas, ça a commencé à se réunir. Alors, est-ce que toute cette histoire n'a pas été forgée par des gens qui avaient été en exil, qui rentraient dans leur terre et qui voulaient se donner un passé mythique? Et ils ont raconté des choses. Ah, c'est de la fiction? C'est de la fiction? Les archéologues diront, oui, c'est de la fiction. On ne trouve rien dans les pierres. Les pierres ne disent rien. Le bibliste dira, c'est de la fiction vraie. Ah ! C'est-à-dire, c'est une approximation prophétique d'une réalité qui s'est passée. Je vais donner encore un autre exemple. Il s'est passé, il y a quelques années, une communauté de cisterciens à Tibérine et dont 7 moines ont été exécutés, mis à mort. On ne sait pas très bien comment ni par qui. Et on a du mal, à cause des réalités politiques, on a du mal de faire une véritable enquête. Ça, il y a une exactitude, il y a des noms. Il y a même, c'est tout à fait récent, il y a des photographies, il y a des écrits. Donc plus même que des vestiges. Et puis on a fait un film. Avec d'autres personnages. Et des personnages qui ont étudié de près la vie et les écrits de ces moines. Qu'est-ce qui est vrai dans ce film ? Fiction. Et pourtant, ce film dit vraiment des choses qui se sont passées, mais dans un autre site, et perçues par d'autres personnages. Mais elle le dit vraiment, en vérité. Pas exactement. Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que c'est l'exactitude ou la vérité ? Et on vous raconte, on peut le faire, c'est raconté dans quantité de revues et de livres, on raconte l'histoire du film à partir d'un ancrage dans l'histoire positiviste, dont on ne sait plus exactement les choses. Et on les refait en quelque sorte, on les relit, et on va relire les relectures. Eh bien, ça nous dit un peu tout le travail que fait la Bible. Ces messieurs, Finkelstein et Silbermann, sont deux archéologues qui ont remarquablement travaillé en Israël. Et justement, il y a sur un certain nombre de points, des divergences entre ces deux messieurs, dont l'un est plus bibliste et les deux autres plus archéologue. Quelle est la vérité ? Ben, des deux côtés. Mais les points de vue sont différents. On a essayé de reprendre ces différents points de vue, et vous avez un autre livre, tout ceci est d'après 2000, du père Marchadour et du père David Neuhaus, qui vivent à Jérusalem. La terre, la Bible et l'histoire. La terre, la Bible, vers le pays que je te ferai voir. Préface du cardinal Martini. Et là, vous avez, avec des encadrés, comme on fait aujourd'hui, hein, pour dire une petite interprétation, on vous raconte l'histoire de la terre. Et cet essai de se situer face à des livres comme ceux-ci, les origines, aux origines d'Israël, d'Ève, et la Bible dévoilée, Finkelstein et Silbermann. Donc, voilà. Nous avons essayé de vulgariser encore. Le père Charles Derlet et moi-même, nous avons fait un autre livre, Apprendre à lire la Bible. Donc, le but n'est pas du tout archéologique, le but n'est pas du tout la terre, le but est comment lire la Bible. Et comment la lisons-nous ? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous commençons souvent par la lire de manière fondamentaliste, c'est-à-dire comme si c'était passé, non pas comme on le raconte, mais comme nous imaginons quand nous lisons le texte. Donc c'est attirer la Bible à nous, et en donnant aux mots le sens que nous y mettons aujourd'hui. Ce qui est tout à fait faux sur le plan de l'histoire. Il faut toujours replacer notre histoire dans le milieu dans lequel il a été composé. Omnis scriptura debet legi, et eo spiritu quo scripta est, comme disent les pères de l'Église. Toute écriture doit être lue dans l'esprit dans lequel il a été écrit. Omnis scriptura debet legi, eo spiritu, dans cet esprit-là, quo scripta est, dans lequel a été écrit. Ça, c'est le principe historien par excellence. Et alors nous avons une première partie dans ce livre qui est tout à fait de vulgarisation, que vous pouvez trouver éventuellement à l'accueil. Nous avons essayé de mettre les choses au point en disant qu'est-ce qui a bien pu se passer quand nous lisons un texte ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Donc, au fil de l'histoire, c'est la première partie. Donc, comment lisons-nous ? Et puis, deuxième partie, après avoir un peu mis en question la manière dont nous lisons les choses, au fil de l'histoire, vous avez une deuxième partie, le regard de la foi. Comment cette histoire devient-elle pour nous une histoire croyante, comme on dit ? Une histoire de foi. Ou, comme c'est von Rath, Gerhard von Rath, qui a été au début de ce qu'on appelle l'histoire du salut. C'est pas une histoire de tous les jours qu'on raconte, mais c'est une histoire du salut. Comment le salut ? Qu'est-ce que c'est que le salut ? Ah. C'est la manière dont Dieu vit avec les hommes, sa créature. Manière concrète dont il vit. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le syllabus « Dieu fait histoire avec l'homme ». C'est la réalité d'une alliance. Alliance d'autrefois, alliance d'aujourd'hui, alliance de toujours. Le regard de la foi. Et puis alors, on regarde, puisque c'est un regard de foi, on regarde le Premier Testament, et puis ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a deux étapes d'une même alliance. Il n'y a pas deux alliances. Ou il y en a plusieurs, mais c'est toujours la même qui est relue et revécue. Et là, vous avez une présentation des différents livres, et là aussi nous avons une présentation des livres dits historiques. Mais donc ceci est une vue tout à fait générale, les livres historiques. Mais les livres historiques, ça fait 12 livres. 12 livres qui ont repris à différentes étapes de l'évolution d'Israël, qui ont repris un regard sur cette histoire d'Israël. Vous avez vu, avec Véronique Favre, vous avez vu l'histoire du Pentateuque. Nous disons Pentateuque, le juif dira Torah. La Torah est une histoire vivante, elle n'est pas encore finie. On la vit encore. Il est encore objet de référence par tout le judaïsme. Et à partir de Josué, vous avez Josué, puis vous avez le livre des juges, puis vous avez les deux livres de Samuel, puis vous avez les deux livres des rois, puis vous avez les deux livres des chroniques, et puis Esdras, Néhémie, et les livres des Maccabées. 12. 12 regards sur l'histoire d'Israël à des étapes différentes. Et qu'est-ce qui est vrai ? Ben, le dynamisme qui parcourt tout cela, l'histoire du salut. Et nous citons tout à fait au début. Dans un encadré que j'espère retrouver. Un encadré du père Gibert, qui est justement un bibliste, mais qui a donc étudié un peu cette histoire, et qui va nous dire un peu qu'est-ce que c'est. Voilà. C'est à la page 23. Israël et le divin. Un petit encadré. Je vous lis. Si Israël a écrit son histoire et nous a transmis une synthèse historienne, qui constitue la plus grande partie de l'Ancien Testament, ce ne fut pas avant tout pour nous informer d'une réalité qui, en dehors de lui, n'intéresserait personne, sinon quelques esprits curieux de n'importe quoi. Ce fut une intention précise, c'est ça qu'il appelle une intention historienne, pas historique, mais historienne, c'est-à-dire une mentalité qui perçoit la dynamique de population. Ce fut une intention précise qui poussa Israël et ses rédacteurs. Et quelle est cette intention ? Transmettre une expérience particulière du Dieu unique. Une expérience particulière du Dieu unique, susceptible un jour de concerner l'humanité entière. Donc c'est une réalité particulière, mais ouverte sur la totalité de l'humanité, sur l'universalité. Encore faut-il ne pas se tromper d'objet. Ce n'est pas l'histoire qui est primordiale, c'est Dieu, ou plus précisément, la relation de l'humanité avec Dieu. Voilà l'objet. Ce n'est pas le déroulement qui est l'objet. C'est la réalité de l'expérience dynamique de Dieu, l'alliance. L'histoire n'est ici que ce qu'elle peut être selon les conditions de l'époque et de l'Antiquité en général. Et puis il met entre guillemets le message, engendrement, le message est offert à chacun pour le recevoir ou le refuser dans sa teneur significative. Dès lors, les genres littéraires, anhistoriques, donc qui ne sont pas historiques au sens moderne du terme, hein, comme les romans, hein, le petit roman de Jonas, ou bien Judith, ou Esther, ou Tobie, qui sont vraiment des romans, mais des romans qui sont replacés dans un milieu, comme on fait encore aujourd'hui, romans historiques qu'on appelle cela. Le mélange, donc, dès lors, les genres littéraires anhistoriques, le mélange des genres dans une historiographie qui ne peut être fiable à nos yeux de moderne, sont secondaires par rapport à l'intentionnalité générale d'une portion de l'humanité, Israël, qui s'affrontait autrement au divin, autrement que les populations aux alentours. Ce qu'une part non négligeable de l'humanité depuis 20 siècles a reconnu et accepté pour donner sens à son existence. Accepter cette expérience pour donner sens à mon expérience aujourd'hui, à notre expérience d'Église aujourd'hui. Engendrement. Pédagogie de l'engendrement. La Bible est une pédagogie de l'engendrement et la Bible est faite pour nous poser des questions. Pas du tout pour les résoudre, mais pour poser des questions qui vont nous aider à entrer progressivement dans le mystère de la réalité que nous vivons aujourd'hui dans notre relation avec Dieu. Et alors, il conclut, il y a donc à lire autrement cette histoire, loin des malentendus d'un positivisme attardé, comme d'une fausse naïveté, souvent fondamentaliste, qui confond réalité plus ou moins immédiate et triviale de l'histoire et interrogation humaine face aux origines, aux fins et aux réalités contradictoirement éprouvantes de la vie. Il s'agit d'y découvrir la réalité de notre vie aujourd'hui. C'est là que l'histoire biblique a ou non un sens. Quel que soit le réalisme d'une histoire inatteignable ou improbable. Quand nous aurons découvert que Abraham, c'est un homme qui est présent dans le livre et qui est présent dans les rapports qu'il a avec nous. À travers les pages du livre, nous découvrirons le vrai Abraham. Pas l'Abraham exact. Celui-là, il est inatteignable et peut-être improbable. Mais il existe. Il existe et le livre nous dit son existence. Mais donc nous avons à lire la Bible comme un livre. Et comme un livre nous disant cette expérience de Dieu d'un peuple qui nous vient jusqu'à nous et nous ouvre les horizons d'aujourd'hui. J'ai reçu un petit feuillet qui invite, c'est l'Alliance israélite universelle, qui invite à une conférence d'une journée, enfin plusieurs conférences sur une journée. Ça s'est fait le dimanche 6 février. Bon, à Paris. Et le thème, c'est la Bible a-t-elle dit vrai ? Vous voyez, actualité. Et je lis, présentation par Shmuel Trigano, qui est un juif. Archéologie et interprétation. Vous voyez, actualité. Puis il y a la venue d'un archéologue israélien, Adam Tsertal, qui va parler d'un fait bien particulier, l'autel du mont Ebal. L'Ebal et le Garizim étaient les deux sanctuaires, les deux montagnes de la Samarie. Et donc il a fait des fouilles là-bas. Et les enclos en forme de pied dans la vallée du Jourdain. C'est avec ces réalités concrètes de la vie de tous les jours et l'évolution des pots, des vases, de la monnaie éventuellement, la construction des maisons, etc. L'archéologie travaille sur tout cela. Les conditions économiques, sociales, politique éventuellement. Voilà. Ça, c'est l'avant-midi. L'après-midi, les origines du peuple hébreu. Et de nouveau, ici, nous avons un juif d'Israël. Le sens originel du nom Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? On l'explique dans la Bible, Jacob, dont le nom va devenir Israël, parce qu'il s'est mesuré contre Dieu, Israël, contre celui qui se trouve contre ou affronté à Dieu. Et la constitution des Israélites en nation, il ne dit pas en peuple. Intéressant de voir qu'il y a une différence. Et puis, un catholique, André Lemaire, les royaumes de David et de Salomon, le débat et ses enjeux méthodologiques. Est-ce qu'ils ont vécu ? Est-ce que ce sont des personnages mythiques ? Est-ce que c'est le personnage du roi ? Pourquoi David, qui signifie la force guerrière, ou la force, ou la passion ? Passion amoureuse ou passion guerrière ? Et Salomon, Shlomo, Shalom, la paix. Guerre et paix. Vous voyez tout de suite la thématique. Guerre et paix. David, Salomon. Deux enjeux. Et puis, après cela, archéologie, histoire et pensée biblique. Et vous avez David Bannon, qui est aussi un juif qui écrit en France. Archéologie et Bible, vérité ou sens ? Point d'interrogation. Et puis Josie Eisenberg, que vous connaissez par toutes ses émissions. Vérité historique et vérité de la foi. Y a-t-il deux vérités ? Voilà. Et ils expliquent, la critique biblique contemporaine s'inscrit dans les débats des archéologues, s'inscrit dans les débats des archéologues. Tout au long du XXe siècle, nombre de découvertes archéologiques ont été faites sur la base des récits des livres historiques de la Bible, tels Josué, Samuel, les rois, les chroniques, etc. Mais cette partie de la Bible est aujourd'hui l'objet d'une révision radicale mettant en question l'historicité des événements qu'elle rapporte et donc le cadre de l'histoire d'Israël. C'est le récit même d'un peuple forgé dans la sortie d'Égypte et auparavant pour les patriarches de Haran qui est remis en question. Et par ricochet, le cadre intellectuel et moral de toute la Torah, l'origine exilique et la migration fondatrice. Si tous ces textes avaient été écrits après l'exil pour se faire un passé mythologique face aux autres nations qui ont aussi un passé mythologique pour se valoriser comme nation. Si. D'ailleurs, ça a été émis par un certain nombre d'auteurs et c'est passé dans les journaux, donc c'est de notoriété publique. Alors nous allons regarder ces différents livres, mais en essayant de les lire à l'intérieur d'un livre, la Bible. Qu'est-ce que chacun de ces livres peut nous apporter à nous aujourd'hui? Et là, il est très intéressant de voir que chaque livre a sa perception des choses. Pour ça, je dis aussi 12 regards sur l'histoire d'Israël. Chaque livre, en nous parlant de réalités qui ont peut-être existé, qui se sont peut-être passées, comme nous disons, peut-être, mais certainement pas comme nous les lisons, qu'est-ce que ce livre veut nous dire? Quelle est l'intention historienne de chacun de ces livres? Qu'est-ce que Josué nous apporte à nous aujourd'hui sur notre histoire chrétienne? Il a quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que le livre des Juges veut nous dire? Non pas seulement sur l'histoire d'Israël, mais sur notre histoire d'Israël. C'est-à-dire sur ce que cette histoire peut engendrer en nous, quand nous le lisons. Et ce sont la plupart du temps des récits. Vous avez vu dans la Torah qu'il y a des récits et des lois. Les récits menant vers les lois et les lois intériorisées dans le récit qui suit. Et donc c'est intéressant. Parce que ça veut nous dire comment un peuple se constitue-t-il? Comment se donne-t-il une constitution? Et il prétend, ce peuple, que sa constitution vient de Dieu. Étrange, hein, au XXIe siècle, de dire cela. Que sa constitution, qu'il est peuple parce que Dieu l'a fait peuple. Affirmation inouïe. Impossible aujourd'hui de dire ça. Est-ce que Dieu vous a donné les frontières de ce peuple? Et quelles sont ces frontières? Heureusement, dans la Bible, elles sont très élastiques, les frontières d'Israël. Ça change tout le temps. Alors, qu'est-ce que Dieu a donné? Qu'est-ce que ce texte veut dire? Surtout que vous avez constamment dans la Bible deux mentalités qui semblent s'opposer. Aujourd'hui encore. Vous avez surtout deux lignes historiennes. Pas une seule. Il vaut mieux qu'il y en ait deux. Et quand il n'y en a qu'une, c'est la pensée unique. On ne peut pas penser autrement. Tandis que quand il y en a deux, l'opposition même fait vivre. Tout face à face, est un avancement, un progrès. Sinon, je reste isolé en moi-même. Et donc, le face à face est important. C'est ce que Dieu dit au début de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, sinon il va s'enfermer. Donne-lui un vis-à-vis, un face-à-face. C'est le terme « ezer kenegdo », c'est-à-dire quelqu'un qui soit aide comme vis-à-vis, comme partenaire. Il faut que l'homme soit partenaire pour que ce partenariat fasse découvrir l'ampleur de la réalité et que je ne contrôle jamais toute la réalité et que j'ai un point de vue tout à fait différent. Donc ça, c'est essentiel. Et vous avez deux lignes, ce que nous appellerions aujourd'hui la droite et la gauche. Le conservatisme et le progressisme, si vous voulez. Le socialisme et le conservatisme, disons. Et vous avez ces deux lignes dans la Bible, deux manières de raconter l'histoire. Vous avez l'histoire deutéronomiste, qui couvre tous ces livres, sauf la fin, sauf les quatre derniers, non ? Ou les six derniers, en fait. Mais toute la première partie, jusqu'au livre des rois, c'est la mentalité socialiste, deutéronome. Il n'y aura plus de pauvres parmi vous. Oh, certes, il y aura toujours des pauvres. Ah, ben vous venez de dire qu'il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, mais il y en a. Ça veut dire que c'est une réalité difficile à faire disparaître, la pauvreté. Mais donc, il faut agir de telle sorte que on prenne en charge celui qui a moins, le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'immigré qui habite chez toi. Tiens, ce sont des problèmes d'aujourd'hui encore. Et puis, vous avez les conservateurs qui disent « Non, il faut garder ce qu'on a, garder le pays. » Pour la mentalité socialiste, le pays nous a été donné par Dieu très bien, donc on peut le partager. Avec le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'immigré qui habite chez toi. Un principe. Le principe conservateur, on a reçu le pays de Dieu, on va le garder. On va mettre des frontières, même un mur. Puisque Dieu nous l'a donné, c'est pour nous. Parfois, on me fait un cadeau en me disant, c'est pour vous, hein. Mais je dis, ben oui. Donc je peux le partager. Ah non, c'est pour vous. Ben oui, c'est pour moi. Donc je peux le partager. Vous m'avez donné un cadeau, je peux faire un cadeau. Ça n'entre pas toujours dans la mentalité aujourd'hui. Et c'est cette mentalité-là. Et ces deux lignes, livre des rois, livre des chroniques, même histoire. Deux mentalités différentes. Et on vous les donne l'une et l'autre. Alors quoi ? Où est la réalité ? Les deux. C'est ce paradoxe de la réalité qui a des tendances diverses. Et que ces tendances sont faites pour s'enrichir et pour arriver à découvrir le bien commun. Vous voyez, rien que cette lecture est une leçon pour les politiciens de notre pays. Rien que ça. Mettre ensemble des choses différentes, et donc chacun fait le sacrifice d'un certain nombre de choses auxquelles il tient. Fût-ce les choses auxquelles il tient le plus, pour découvrir le point de vue de l'autre. Voilà, ce que nous allons voir, c'est un peu apéritif de ce que nous allons voir à travers ces livres. Alors, comme je l'indique, vous voyez, on a fait une petite introduction, archéologie et histoire biblique, de quoi s'agit-il ? Et la fois prochaine, nous allons lire le livre de Josué, De quoi parle-t-il et pourquoi parle-t-il comme cela? J'aimais même, ça c'est le troisième cours, fiction de la guerre sainte. Est-ce qu'il y a eu une guerre sainte? Et qu'est-ce que ça voudrait dire, guerre sainte? Est-ce que ça va ensemble? Et puis le livre des juges, livre de Samuel, livre des rois, et alors, ça, tout ça, c'est l'histoire deutéronomiste. Et puis après, nous regarderons aussi, parce que c'est important, de voir, tiens, quel est l'autre point de vue, le point de vue conservateur maintenant. Et qu'est-ce qu'il veut conserver? Est-ce qu'au fond, il ne voudrait pas conserver la même chose, les uns et les autres, mais d'une manière un peu différente? Et nous arriverons jusque un texte qui n'est pas dans la Bible hébraïque, hein, les deux livres des martyrs d'Israël, comme on l'appelle aujourd'hui, les livres des Maccabées, qui n'ont été écrits qu'en grec. Et pourtant, la tradition du livre des Maccabées, nous en parlerons, est conservée dans le Talmud. Voilà. Donc, la semaine prochaine, nous verrons le livre de Josué. Alors, une manière intelligente de suivre le cours, c'est de lire au fur et à mesure les livres dont nous traiterons et de vous poser un certain nombre de questions. Voilà, merci à vous et à la semaine prochaine.